Bonjour à tous les amis du Musée National de la Marine. Nous écoutons aujourd'hui une interview de Patrice Desensières. Patrice, c'est le rédacteur en chef de notre revue Neptunia. Alors, c'est Wagner qui, dans son introduction au vaisseau fantôme, nous fait entrer dans cet univers à la fois magique et secret. Patrice Desensières, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes rédacteur en chef de Neptunia. Alors, qu'est-ce que c'est que Neptunia ?
Alors, Neptunia, c'est une revue trimestrielle qui existe, qui a été fondée en 1946 par et pour les Amis du Musée de la Marine. Les Amis du Musée de la Marine est une association qui avait été créée en 1930, donc un petit peu avant la guerre, qui elle-même avait un bulletin, mais à périodicité très irrégulière. Et en 1946, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la décision a été prise d'établir un journal assez différent de celui qui existait avant-guerre et qui a pris le nom de Neptunia. Alors son véritable fondateur, en fait, c'est le directeur du musée de l'époque, qui était le commandant Vichot. Et d'ailleurs, tous les numéros de notre revue portent « fondé par le commandant Vichot ». Le commandant Vichot n'était pas un membre de l'association des Amis du Musée de la Marine, qui aujourd'hui, depuis cette époque-là, publie cette revue, mais c'est quand même lui qui concrètement a suscité et défini ce qui était et qui est toujours le format, la périodicité et les sujets, les centres d'intérêt de cette revue. Alors c'est une revue qui a la particularité d'être très illustrée. Alors c'est pas tout à fait un magazine au sens commun de l'expression, mais nous attachons une grande importance à l'illustration de façon à ce que des sujets, même quelquefois un peu ardus, un peu spécialisés, un peu techniques, ne soient pas trop difficiles à lire pour des non-connaisseurs, non-spécialistes. Par contre, nous nous attachons à ce que les spécialistes, les connaisseurs, retrouvent leurs petits et qu'il n'y ait pas d'erreurs manifestes dans nos articles. Donc nous avons une double contrainte, un petit peu contradictoire, de satisfaire la demande ou les attentes d'un lectorat souvent très compétent, très spécialisé et qui nous reprendrait certainement si on mettait des erreurs, mais également une autre partie de notre lectorat est composée de gens qui s'intéressent à l'histoire du patrimoine maritime, ou plus largement à l'histoire de la mer et des navires, et ces gens-là leur proposent une lecture plutôt agréable. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais c'est un dilemme qu'on essaye de résoudre à chaque fois, c'est justement ce qui fait l'intérêt du métier et de la fonction que j'occupe.
Le premier numéro, il est toujours au musée de Rotterdam ?
Non, le musée de Rotterdam est un exemple. Qui lit la revue ? Je pense que ça répondra un petit peu à votre question. Nous avons un lectorat, évidemment, qui est essentiellement français, mais pas uniquement. D'une part, ce sont des personnes physiques qui sont d'une manière ou d'une autre intéressées par ce qu'on peut voir au musée de la marine. Et quand je mets O, c'est avec un X à O et un S à musée et marine, parce que c'est celui de Paris, mais également celui de Toulon, Brest, Rochefort et Lorient. Mais c'est également un lectorat étranger de gens qui s'intéressent à la marine en général et notamment à la marine française, enfin à la marine française, qu'ils soient militaires ou civils. Et également, on a une deuxième catégorie de lecteurs qui est importante, qui est en fait, sont les lecteurs indirects, parce que ce sont des institutions qui sont abonnées à la revue pour la mettre à la disposition de leurs lecteurs au sein de leur bibliothèque. Alors ce sont des universités, on a pas mal d'universités françaises, mais également étrangères, ce sont des musées maritimes étrangers, et l'exemple que vous citiez, le musée de Rotterdam, est un exemple tout à fait typique d'institutions étrangères qui possèdent une collection complète de notre revue. Mais il y a énormément d'autres musées. J'ai eu la surprise à La Valette, à Malte, de rencontrer également un musée qui disposait d'une collection, sinon complète, du moins assez complète de notre revue. On a des lecteurs dans un certain nombre de musées américains, donc on a des lecteurs qui ne sont pas forcément abonnés, mais qui nous connaissent par l'intermédiaire de bibliothèques spécialisées, soit dans des instituts techniques en général liés à la construction navale, soit des musées maritimes.
Et c'est une revue qui est donc à la fois technique, à la fois grand public, et qui a de toute façon un objectif au niveau qualitatif.
Oui, parce que on a de la compétition. Il faut tenir compte de ce que proposent les autres. Et je ne vais pas citer l'exemple, enfin nous avons un confrère qui s'appelle le Chasse-Marais, qui a un petit peu repris notre format qui existait déjà depuis une trentaine d'années quand cette revue a été créée. Ils ont eu un succès tout à fait remarquable et qui montre en tout cas que la qualité de la présentation, de l'illustration, de la mise en page, etc., etc., est un élément important du succès d'une revue de ce type-là. Donc, j'allais dire, aiguillonné par la concurrence, si on peut dire ça comme ça, nous nous efforçons à maintenir une certaine présentation un peu... luxueux, c'est pas le mot, mais propre, dans lequel les articles sont présentés de façon aérée, avec une bonne répartition d'une illustration qui elle-même est bien choisie, avec si possible de la couleur, mais c'est pas toujours possible quand on est dans le domaine historique, et c'est quelque chose auquel on tient énormément. Et notamment la couverture, qui est une couverture complètement illustrée, représente depuis une quinzaine d'années, représente systématiquement un navire. Alors un navire, soit un modèle de navire, soit une peinture représentant un navire, soit le cas échéant une photographie ancienne d'un navire, etc. Car nous nous intéressons à la marine actuelle, mais de façon assez ponctuelle. On est beaucoup plus intéressé, comme le musée de la marine, auquel nous sommes rattachés de manière sinon structurelle, du moins nous sommes très proches du musée de la marine, évidemment, à l'histoire de la marine française, qu'elle soit marine militaire ou marine civile, commerciale ou de pêche. Car c'est quand même quelque chose auquel on attache un grand intérêt, même s'il n'est pas toujours facile de trouver des sujets et des auteurs qui soient capables de nous produire des articles correspondant à nos critères à la fois de présentation et sur la qualité du fond.
Comment ça fonctionne une revue? Quelle est la manière de la mettre en scène en fait? Parce que c'est une mise en scène une revue finalement.
Ah, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, on a la chance d'exister depuis longtemps. Et existant depuis longtemps, nous sommes relativement connus. Enfin, tout est relatif naturellement, mais enfin, les gens qui s'intéressent à l'histoire du patrimoine maritime, c'est le thème que nous avons choisi, ils ont sélectionné après beaucoup de discussions sur le sujet. Donc les gens qui ont un intérêt profond ou passager sur des thèmes faisant partie de cette rubrique, nous connaissent et quelquefois viennent spontanément nous proposer des articles. Je dirais qu'une bonne moitié des articles que nous publions viennent de propositions spontanées. Ça veut dire que nous les prenons, mais nous les prenons si vraiment le produit fini qui nous est proposé correspond bien à nos critères, ce qui est quand même assez important, et nous devons refuser une bonne moitié des propositions qui nous sont faites. Le reste, les autres articles, sont souvent des commandes. Alors ce sont soit des commandes que nous adressons à des auteurs bien connus comme de bons spécialistes dans des domaines variés, mais également des commandes que nous pouvons faire à des gens dont nous savons qu'ils rédigent d'une manière agréable, qu'ils disposent d'une illustration possible, etc. C'est comme ça qu'on a réalisé des reportages sur un certain nombre d'arsenaux anciens, les gens qui les ont rédigés n'étaient pas du tout des spécialistes des arsenaux, mais en réunissant la documentation graphique ou archivistique qui était nécessaire, se sont pris au jeu et nous ont produit des articles très intéressants et que les spécialistes de ces domaines-là ont reconnu comme apportant quelque chose.
Thank you.
Vous êtes bien dans le magazine de la mer et nous écoutions un extrait du trio Opus 100 de Franz Schubert. Mais revenons à la revue Neptunia avec son rédacteur en chef.
Fondamentalement, le travail qu'on fait est assez voisin de celui du musée de la marine. Le musée de la marine cherche à montrer que la France a eu un passé historique très riche dans le domaine maritime. Différentes formes, elle a deux façades maritimes, enfin, il y a tout un tas de raisons qui expliquent ça. Cet héritage est malheureusement pas suffisamment connu. Alors nous allons exactement dans le même sens, mais nous l'enrichissons dans la mesure où nous débordons du strictement français. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des choses intéressantes à présenter qui concernent l'histoire maritime dans d'autres pays, nous sommes tout à fait intéressés à publier ça, et nos lecteurs nous sont tout à fait reconnaissants. On a d'ailleurs, à ce sujet-là, passé des accords de partenariat avec deux revues très voisines de la nôtre, l'une allemande qui s'appelle Das Logbuch, ça veut dire le livre de bord en allemand, et l'autre s'appelle Nautical Research Journal, le nom dit bien ce que ça veut dire, et on échange des articles, certains de nos articles sont publiés dans ces revues, et certains de leurs articles nous sont proposés, ou nous demandons la reproduction, et c'est des accords qui permettent d'élargir un petit peu les centres d'intérêt que nous présentons dans notre revue.
Est-ce que le Musée national de la marine participe à l'élaboration de la revue Neptunia?
Voilà, tout à fait. Ça n'a pas toujours été le cas, car le Musée de la marine n'avait sans doute pas le temps, ni les moyens, ni peut-être même les compétences d'ailleurs, de s'intéresser à la préparation d'une revue comme Neptunia. Mais depuis quelques années, cette coopération est vraiment organique. C'est-à-dire que le Musée de la marine fait partie de droit du comité de rédaction de la revue, et je le suis très reconnaissant parce que cette collaboration est vraiment une collaboration dans laquelle le musée joue vraiment un rôle très actif. Il nous apporte vraiment des ouvertures que nous n'aurions pas eues ou des thèmes sur lesquels nous n'aurions pas pensé. Et d'autre part, il possède, au niveau de l'iconographie par exemple, une photothèque absolument remarquable dans laquelle nous pouvons puiser très largement, ce qui nous permet d'offrir des illustrations de très grande qualité que nous n'aurions pas trouvé par ailleurs. Tout, je précise, libre de droit. Donc c'est quelque chose qu'on ne nous fait pas payer, ce qui est quand même quelque chose dont nous sommes extrêmement reconnaissants au Musée national de la Marine. Nous avons des accords du même type avec d'autres institutions, mais c'est quand même au Musée de la Marine que nous trouvons le plus d'éléments se prêtant à l'illustration des articles que nous préparons. Non, le musée est pour nous un partenaire très 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 riche et vraiment auquel nous sommes très très attachés.
Et là, le Musée national de la Marine évolue, la réouverture du musée c'est au mois d'octobre. Est-ce que Neptunia suit un peu cette évolution?
Ah, tout à fait. Alors d'abord, nous avons un petit peu suivi l'évolution du chantier lui-même, parce que c'est un chantier quand même très lourd. Il faut savoir que le bâtiment dans lequel le Musée de la Marine est installé à Paris est un bâtiment qui avait un côté un petit peu provisoire, il avait été un peu bricolé pour l'exposition de 1937, donc il y avait des problèmes de structure. Il y a eu des inondations, par exemple, au niveau du musée de la marine. Donc le chantier était un chantier relativement lourd. Et d'autre part, les autorités de tutelle du musée lui ont demandé d'avoir une orientation un petit peu plus explicative des enjeux du domaine maritime dans le monde d'aujourd'hui, qui évidemment était pas très présent ou pas très visible dans la présentation ancienne du musée. Donc il s'agit d'un musée complètement différent, pas dans sa structure, mais au moins dans certaines de ses présentations. Donc c'est un chantier très lourd que nous avons présenté aux plusieurs étapes au fur et à mesure que le chantier avançait. Alors maintenant, le chantier se termine et le musée va ouvrir normalement le 25 octobre. Enfin bon, la date, c'est une date qui est retenue à titre indicatif, mais enfin, ça reste l'objectif du musée d'ouvrir à cette date. Et cette ouverture va évidemment donner lieu à un certain mouvement médiatique. Et ce mouvement médiatique, nous allons l'accompagner en publiant notamment un numéro un petit peu spécial qui va sortir à peu près à l'ouverture du musée, dans lequel nous allons présenter le nouveau musée tel qu'il va être visitable à partir donc du mois d'octobre. Mais également, parce que c'est également quelque chose d'important, nous avons prévu une présentation par échantillonnage, naturellement, pas exhaustive, évidemment, de toutes les collections du musée et notamment de celles qui ne sont pas exposées. Car il est évident que, comme tous les musées, le musée de la marine n'expose qu'un pourcentage faible, je ne sais pas, 10, 15, 20% de ce qu'il possède en collection, qui sont excessivement riches. Les étrangers qui viennent à Paris et qui visitent le musée de la marine sont toujours frappés par la qualité et la variété des éléments qui sont posés en vitrine. Et une partie beaucoup plus importante encore de ces collections, en fait, sont conservées en réserve. Mais le nouveau musée, donc, qui va ouvrir, nous allons participer de façon active à son ouverture dans la mesure où nous aurons un stand à l'entrée du nouveau musée, tout représenter un petit peu le journal. C'est-à-dire qu'on va montrer un petit peu tout ce que nous avons fait au cours des dernières années dans le journal, les sujets qui ont été traités, les présentations, etc. Mais également expliquer un petit peu la manière dont le journal va évoluer en fonction de l'évolution du musée, parce qu'il faut qu'on s'adapte évidemment à un musée. Nous sommes une structure, je parle du journal là, qui est liée à l'Association des Amis du Musée de la Marine, et à ce titre, doit refléter, sinon le musée lui-même, du moins les centres d'intérêt qui sont présentés dans le musée. Donc voilà en quoi nous allons suivre l'évolution que va connaître le musée de la Marine dans les années qui viennent.
Mais oui, vous êtes toujours dans le magazine de la mer, où après cet extrait de l'ouverture de La Force du Destin de Verdi, nous retrouvons Patrice de Sancière, le rédacteur en chef de Neptunia.
Il va falloir intégrer un peu plus peut-être la marine marchande, je ne sais pas.
Bien sûr.
La plaisance, les secours en mer, enfin tout ce qui fait le domaine maritime.
Je vais peut-être vous paraître étonnant, mais figurez-vous qu'à l'ouverture du musée au Palais de Chaillot en 1943, la marine de commerce, la plaisance, la pêche, enfin la grande pêche surtout, tout ça c'était des sujets qui étaient extrêmement présents, beaucoup plus que maintenant. C'est un petit peu surprenant, puis petit à petit, ça a disparu, la présence est devenue moins visible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque ça, c'était une évolution qui a duré quand même quelques dizaines d'années, vous l'imaginez. Et effectivement, ces dernières années, il n'y avait pas grand-chose qui ressorte pas de la marine militaire. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments plus riches à montrer, des modèles de plus belle qualité, des tableaux plus nombreux, etc., etc. Enfin, c'est vrai que c'est plus facile de représenter la marine de guerre. Puis c'est plus spectaculaire, faut quand même le reconnaître.
C'est vrai.
Mais c'est pas que le musée de la marine se désintéresse, mais c'est qu'en fait, il s'était même pas trop posé la question et que petit à petit, de rénovation en rénovation, les autres marines que la marine militaire avaient petit à petit perdu leur rôle majeur. et c'est quelque chose qui va complètement changer. Et pour ce qui nous concerne, on essaye déjà d'introduire de plus en plus d'articles concernant la marine de commerce, alors différents types de marine de commerce, le transport des marchandises, transport des passagers, peut-être la grande croisière, etc. Les marines de pêche notamment, c'est un sujet intéressant, et la plaisance. Alors la plaisance, jusqu'à présent, la revue la traitait assez peu, on traitait surtout de l'évolution des clubs nautiques, plus que de la plaisance en tant que telle. Pourquoi ? C'est parce qu'il existe en fait de très bonnes revues dans le domaine de la plaisance qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans. Alors évidemment, on ne va pas se mettre à singer ce que les autres font très bien. Un autre domaine qu'on n'aborde jamais non plus, enfin ou très peu maintenant, c'est l'histoire navale. Pourquoi ? Parce qu'il existe là aussi des revues, de très bonnes revues, qui traite de ces sujets-là. Et puis, c'est des sujets qui se prêtent moins à l'illustration. C'est-à-dire qu'il y a des illustrations de batailles navales, mais souvent, c'est des choses de deuxième main qui n'ont pas une valeur documentaire très grande. Donc, on préfère s'intéresser aux navires en tant que tels, carrément, aux bases navales, enfin, aux arsenaux, aux ports, à tout ce qui concerne la vie portuaire. Je pense, par exemple, qu'on va bientôt publier quelque chose sur les gares maritimes. C'est un sujet qui me paraît intéressant, qui, à ma connaissance, n'a jamais été trop traité dans des revues françaises. Ce qu'on cherche, c'est à surprendre nos lecteurs, c'est-à-dire leur montrer des choses que vraiment ils n'ont jamais vues et leur apprendre quelque chose qui soit à la fois un petit peu distrayant pour le lecteur généraux, mais qui apporte quelque chose de concret pour les chercheurs qui sont un petit peu spécialisés dans les domaines qu'on va traiter.
Et ce n'est plus simplement des gens qui font des maquettes maintenant.
Ah non, alors oui, là c'est une bonne question que vous posez parce qu'on a eu dans le passé, et c'est encore un peu vrai maintenant, une très grande proportion de nos lecteurs qui étaient maquettistes, près de 50%, près de la moitié. Alors le modélisme, c'est un métier, c'est une occupation très particulière qui développe l'esprit associatif parce que les modélistes sont assez soucieux de partager leurs trucs et ficelles, enfin tout ce qui permet de faire des choses qui paraissent infaisables avec d'autres modélistes. Donc ces gens-là sont des gens qui vivent un petit peu en réseau et pour nous, c'est une idée qui date du commandant Vichoul. Et il a eu l'idée de créer autour du musée de la marine une espèce d'école de modélisme français. Aujourd'hui, le modélisme français jouit d'une réputation exceptionnelle dans le monde entier. Alors ça tient d'une part à la qualité d'un certain nombre de modélistes qui ont fait un peu école, ça tient également au travail de Monsieur Boudriot, Jean Boudriot, qui s'est éteint il y a 3-4 ans, c'est un auteur qui ne vient pas du tout du milieu maritime, et qui d'ailleurs n'a aucune formation maritime, il est architecte, mais architecte civil, hein, il a construit des immeubles. Et il s'est passionné pour l'histoire de la marine au 18e siècle, et il a créé de toutes pièces une série de monographies consacrées à des bâtiments de guerre, essentiellement, mais pas uniquement. Il y a également des bateaux de la Compagnie des Indes, des bateaux de commerce, des bateaux négriers aussi, dans lesquels il arrivait à réunir une documentation extrêmement riche et précise, avec des dessins, comme s'il était architecte, il dessinait autant qu'il n'écrivait d'ailleurs, qui ensuite ont servi aux modélistes français pour créer des modèles d'une très grande qualité, car ils avaient là entre les mains un outil, là, en l'occurrence un outil documentaire, d'une qualité sans équivalent dans d'autres pays. Hein, c'était. Et du coup, en France, on a eu et on a encore des modélistes d'une qualité musée. D'ailleurs, un certain nombre de modèles exposés ou qui ont été exposés au musée de la Marine, en fait, ont été faits par des amateurs, des gens qui n'ont aucune formation professionnelle de modéliste, mais qui, suivant donc les conseils et leur travail étant éclairé par les travaux documentaires de M. Boudriot, ont réussi à faire des choses tout à fait exceptionnelles. Alors, Neptunia ne fonctionne que par abonnement, pour l'instant en tout cas. Pour un certain nombre de raisons pratiques, on n'est pas dans les kiosques. Si on n'est pas dans les kiosques, c'est parce que la NMPP qui gère les kiosques, qui gère la distribution des périodiques, demande un tirage d'au moins 5000 exemplaires, ce qui n'est pas notre cas. C'est dommage, mais enfin, c'est une contrainte auquel on ne peut pas échapper. Donc, nous ne vivons que par abonnement. Alors, les abonnements, on peut les souscrire soit dans les différents sites du musée de la Marine, c'est-à-dire au musée qui va réouvrir au Trocadéro, soit à Brest, Toulon, Rochefort et Port-Louis. Mais on peut également souscrire par Internet. Alors, nous avons une boutique en ligne qui est accessible par le site de l'Association des Amis du Musée de la Marine. Le site, c'est aamm.fr. Et il y a une rubrique boutique en ligne. Et on peut accessoirement commander des numéros anciens. Alors, pourquoi commander des numéros anciens ? Parce que certains correspondent à des... Ça correspond à des demandes qui nous sont faites assez régulièrement. Avez-vous traité tel ou tel sujet ? Oui. Alors, nous avons sur le site aamm.fr un répertoire de tous les numéros anciens avec leur contenu, avec leur sommaire. Et on peut commander la plupart, il y a certains numéros qui sont épuisés, mais la plupart de ces numéros, on peut les commander sur la boutique en ligne.
Je vous remercie, Patrice.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette interview de Patrice de Sancière, le rédacteur en chef de notre revue Neptunia. Bon vent et bonne mer à tous.
Thank you.